franceinter.fr. La revue de presse d'Agnès Soubiran.
Des rues d'une propreté à lécher le sol, deux cafés, une supérette, de grandes maisons dans lesquelles vivent trois générations et des collines jonchées de parcelles en jachère. Bienvenue en Autriche, à Sigraben, petite bourgade de 900 habitants à quelques mètres de la frontière avec la Hongrie. Un village qui a voté à plus de 76% pour le candidat d'extrême droite Norbert Hofer en mai dernier. L'envoyé spécial de Libération a donc rencontré les habitants de ce district qui évoque ces frontières invisibles qui permettent à des milliers de migrants de passer, les non-sens de la mondialisation, rejetant pêle-mêle l'euro et l'Europe. L'Europe au défi de la vague populiste, titre de son côté Le Figaro qui s'interroge. Après Viktor Orban en Hongrie, le Brexit et l'élection de Donald Trump, la théorie des dominos est à nouveau testé demain en Autriche et en Italie. En Autriche donc, pour le second tour de l'élection présidentielle. Le premier scrutin en mai dernier avait été annulé en raison d'irrégularités. Le candidat écologiste Alexander Van der Bellen était arrivé très légèrement en tête. Et même si en Autriche, le président n'a qu'un rôle représentatif, ce qui laisse craindre d'ailleurs une forte abstention, l'élection est observée avec attention à la une du New York Times, où le chercheur Yasha Munk s'interroge sur l'effritement des valeurs démocratiques et des libertés de depuis une dizaine d'années dans le monde occidental. Dans les jeunes générations, explique-t-il, ceux qui considèrent que la démocratie est une valeur essentielle de la vie sont de moins en moins nombreux. Scrutin donc aussi demain en Italie. Un référendum sur une réforme constitutionnelle souhaitée par Matteo Renzi, portée par Matteo Renzi, incarnée par Matteo Renzi. S'il reconnaît un peu tard qu'il n'aurait pas dû autant s'impliquer dans cette campagne, allant jusqu'à déclarer qu'il quitterait le pouvoir en cas de victoire du non, le réformateur autoproclamé de la gauche italienne est retombé dans ses vieux travers. Lui qui, déjà en 2008, lors des primaires démocrates à la mairie de Florence, proclamait « Si je perds, je rentre à la maison ». Renzi, le kamikaze, titre d'ailleurs Le Monde, où Dussault dessine un Matteo Renzi en pilote japonais de la Seconde Guerre mondiale, bandeau sur le front, portant la mention « Réforme ». Jérôme Gautret, correspondant du Monde en Italie, décrit la tentation d'incarner l'homme providentiel dans un pays que les drames du XXe siècle ont pourtant vacciné contre le pouvoir personnel. Pouvoir personnel mais surtout solitaire pour Renzi, qui est apparu bien seul durant cette campagne, se démenant le plus souvent seul sur la scène de dizaines de réunions publiques. On saura lundi matin si Matteo Renzi a réussi son pari. En cas d'échec, un autre homme est déjà prêt. Un ex-comique, leader du mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, qui a fait du tous pourri sa marque de fabrique. Parti politique, parlement, médias, vous êtes tous morts, a déjà déclaré Beppe Grillo, rapporte Le Figaro. Deux scrutins donc, alors que Bruxelles retient son souffle.
Il sera 16h15 à Barcelone, 9h15 à Chicago, 12h15 à Buenos Aires, 17h15 au Cap et 23h15 à Pékin. Et toute la planète foot aura la tête tournée vers le camp nous.
Pour un match au sommet entre le FC Barcelone et le Real Madrid, un classico du foot espagnol avec un duel annoncé entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Une fête pour tous les amoureux du ballon rond. Mais depuis hier soir, la fête est moins folle. Ballon d'or de l'évasion, titre ce matin le Huffington Post. Si Lionel Messi a déjà été condamné pour une fraude fiscale estimé à 4 millions d'euros. Son éternel rival dans l'attribution du Ballon d'Or depuis 2008, Cristiano Ronaldo, semble avoir largement remporté la bataille de la fraude avec une évasion fiscale estimée à 150 millions d'euros. C'est l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui est à l'origine des révélations sur la plus grande fuite de l'histoire du sport. Cette enquête, baptisée Footleaks, a été menée par 60 journalistes de 12 médias européens, dont Mediapart pour la France. Ces journalistes ont ainsi épluché durant des mois plus de 19 millions de documents transmis par un correspondant que nous appellerons John. Il s'agirait d'un jeune portugais en jeans et baskets, nous dit Der Spiegel, au rire communicatif et aux ongles rongés jusqu'au sang par le stress. Un stress bien compréhensible lorsqu'on découvre l'ampleur de la fraude. Cristiano Ronaldo, star incontesté du foot mondial, superstar du Real Madrid, star de rêve pour des millions de gamins, adulé par quelques 200 millions de followers sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo aurait dissimulé depuis 8 ans 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux en Suisse et aux îles Vierges britanniques. Un système éminemment complexe et massif élaboré par des avocats très spécialisés et à l'origine duquel on retrouve également Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo. Ces 150 millions proviennent des revenus de sponsoring avec un exemple très simple cité par Mediapart. Quand les fans s'offrent une paire de Nike griffée CR7, le numéro fétiche de Ronaldo, vendu à 325 euros, l'attaquant portugais encaisse 13 euros via une société offshore. Et Mediapart de s'interroger, le fisc espagnol est déjà favorable pour les footballeurs qui plus est étrangers, et Ronaldo est portugais, il aurait dû verser au fisc autour de 3 millions, une goutte d'eau pour un homme dont la fortune est estimée à plus de 200 millions, mais non. Pour Ronaldo, c'était encore trop, écrit Mediapart. Pour l'instant, les avocats ont dénoncé des documents falsifiés et récusé toute fraude. Mais promet Fabrice Arfi de Mediapart, il y en aura pour tout le monde. Le football français n'est pas épargné. Les révélations ont commencé hier soir, mais vont se poursuivre durant 3 semaines.
À la recherche du plan B, ça c'est à la une de Libération, la bataille de l'après Hollande, titre Le Monde, Valls se lance dans la bataille de la primaire, croit savoir Le Figaro, la gauche dans la tourmente est à la une de tous les quotidiens ce matin.
Éparpillée par petits bouts façon puzzle, célèbre réplique des tontons flingueurs et qui pourrait donc s'appliquer à la gauche française, reconstituer les pièces qui manquent à son puzzle, c'est d'ailleurs le choix du Parisien aujourd'hui en France ce matin, pour détailler la tâche qui incombe désormais à Manuel Valls. On citera dans le désordre faire revenir à lui les pro-Macron, se démarquer de François Hollande, dont il est le Premier ministre depuis 2 ans, amadouer les syndicats ou encore mobiliser pour la primaire. Et estime Didier Rose dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, gommer l'image de Brutus fiévreux, lui qui a donné le dernier coup à Hollande. Pour Laurent Geoffrin dans Libération, c'est un livre qui a tué le président, le livre de Davé et l'homme. Un président ne devrait pas dire ça. Gommer l'image de Brutus fiévreux, donc, en se hâtant lentement, estime Xavier Brouet dans Le Républicain. Et pour ne pas brusquer les esprits, Manuel Valls a d'ailleurs renoncé à intervenir aujourd'hui à la Belle Alliance Populaire à Paris. Mais avance Le Figaro, il pourrait officialiser sa candidature demain soir et les journaux de spéculer sur le jeu de chaises musicales qui devrait avoir lieu au sein du gouvernement après la démission du Premier ministre, alors devenu candidat.
Aux États-Unis, le candidat surprise devenu président multiplie les surprises.
Et c'est bien sûr Donald Trump qui multiplie ces dernières heures les surprises diplomatiques et provoque l'embarras des médias chinois qui passent sous silence ce matin l'appel du futur président américain à la présidente taïwanaise, rompant ainsi avec 40 ans de diplomatie américaine. Les médias officiels chinois préfèrent consacrer leur une à l'entretien entre le président chinois et l'ancien diplomate américain Henry Kissinger, qui à 93 ans est considéré comme un vieil ami de Pékin. Ce coup de fil de Donald Trump provoque un tollé diplomatique. La Maison-Blanche a dû confirmer à l'AFP qu'il n'y avait aucun changement dans la ligne politique de Washington vis-à-vis de la Chine unique. Et comme à chaque fois qu'il est critiqué, Donald Trump se défend dans une série de tweets. La présidente de Taïwan m'a téléphoné pour me féliciter de ma victoire, merci. Puis un peu plus tard, intéressant, écrit-il, les États-Unis vendent des milliards de dollars d'équipements militaires à Taïwan, mais je ne devrais pas accepter un appel de félicitations. Voici donc venu le temps de la diplomatie version de Trump.
C'était la revue de presse d'Agnès Soubiran.